Et vous écoutez France Culture. Mon devoir de metteur en scène de cinéma est de débusquer la beauté et non la véracité historique. Bernardo Bertolucci. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Italia Arrabbiata, septième du nom ce soir dans Mauvais Genre, qui se consacrera à l'actualité vidéo italienne de ces dernières semaines. Seront en effet traitées les sorties en Blu-ray et DVD de 1900 de Bernardo Bertolucci et les camarades de Mario Monicelli, chronique SF et comics signé Jean-Pierre Dionnet, en fin d'émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre, donc, actualité de la vidéo italienne ce soir, mais également retour du maître Dionnet, que je salue. Comment va-t-il ?
Eh bien, il va bien comme en hiver.
Il va bien comme en hiver, c'est parfait. Découverte, lecture récente, dont on ne parlera pas dans cette émission.
Mais qui... Découverte, nous y reviendrons, puisqu'il y a de prodigieux livres de fantasy en ce moment. Découverte, un livre dont on va parler, un livre mythique qu'on était 10 à posséder, mais j'y reviens un peu plus tard.
Très bien, il faut laisser planer un peu de suspense. Bonsoir Christophe Beer.
Bonsoir François.
Une actualité à vous ? Qu'est-ce que vous avez fait de beau ?
Ah mais j'ai fait ce que j'adore faire, je n'ai rien fait.
Ah bah voilà, un homme comblé.
Oui, ce n'est pas facile. Non, il y a eu le livre sur Elvie France qui est sorti, mais pour moi c'est déjà une histoire ancienne. C'est un livre qui a été écrit en début de cette année, mais qui vient donc de sortir et qui est disponible partout, qui s'appelle Pulsion Graphique chez Cernunnos.
Et qui constituerait un merveilleux cadeau de Noël, mais on en reparlera sans doute la semaine prochaine. On signale également Elvie France, c'est l'objet d'un très beau livre savant et érudit de Bernard Joubert.
Chez United Dead Artists.
Donc Bernard Joubert, qu'on recevra dans le courant de l'année prochaine pour refaire un point sur Elvie France, parce qu'en effet, il en possède les archives et nous fûmes chez lui il y a bien longtemps pour les expertiser. C'est un grand souvenir et on reprendra tout ça dans les mois futurs. Philippe Rouillet, comment va Philippe?
Bonsoir. Quant à moi, je suis dans la hotte du Père Noël là, parce que il y a tous les coffrets, les beaux livres qui sortent en ce moment, et on peut pas parler de tout dans Mauvais Genre, mais il y a quand même le coffret Jean Vigo, une intégrale Jean Vigo chez Gaumont, qui est vraiment formidable, avec une nouvelle version de la Talente restaurée plus conformément aux vœux de Vigo. On a enlevé les plans qu'avait rajouté Langlois. Il y a des versions alternatives de Zéro de conduite et d'À propos de Nice. C'est vraiment un document très très formidable. Et puis il y a un livre d'entretien avec Darius Conji. De Jordan Metzer.
C'était l'invité d'Antoine Guillot.
Et voilà, c'était samedi dernier chez Antoine Guillot à Plan Large. Et c'est vraiment un livre très, très passionnant.
Très bien, écoutez, l'occasion donc de réécouter France Culture. En attendant, je donne la parole à quelqu'un avec qui c'est Noël à chaque fois. Céline Duchesnay, bonsoir.
Bonsoir mon cher François.
Céline Duchesnay qui est aujourd'hui historienne.
Oui, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de lettres. Aujourd'hui je vous amène dans une date, en fait, je vous amène en 1518, donc il y a exactement 500 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 5 juillet 1518 à Strasbourg? Eh bien voilà, il y a des dizaines de personnes qui se sont soudainement mises à danser sans pouvoir s'arrêter et sans que l'on sache pourquoi. Le phénomène a duré 2 mois, le temps d'un été, et donc 500 ans après, la preuve, on en parle encore, car l'événement a été perçu comme une épidémie. En regardant les danseurs, on pouvait être irrésistiblement entraîné dans la danse. On a pu parler de fièvre, de maladie, d'épidémie, mais sans jamais évoquer de sorcellerie ou d'envoûtement, pas du tout. Les médecins ont été convoqués, les magistrats se sont inquiétés pour endiguer le phénomène. On a envoyé les danseurs faire le pèlerinage de Saint-Guy. Alors cet épisode strasbourgeois n'est pas isolé, il a existé d'autres épidémies de danse au cours des siècles, essentiellement dans la région Rhin-Maine et dans l'actuelle Belgique. Et ce qui est particulièrement frappant concernant la fièvre dansante de Strasbourg, c'est que ce sont des faits qui vont complètement se déformer et s'amplifier au fil du temps. Il y a le célèbre Paracelse, médecin alchimiste, qui fera remonter la cause de l'épidémie à une femme nommée Frau Troéfea, personnage totalement inventé, le professeur Charcot, qui verra des cas d'hystérie, et sans parler aujourd'hui des romans de John Waller et de Jean Tellet. Alors on va revenir sur l'épisode tel qu'il a été vécu par ses contemporains grâce à Cécile Dupeux, conservatrice du musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg et commissaire de l'exposition 1518, La fièvre de la danse. «
La danse est très répandue à ces périodes-là. On sait qu'à Strasbourg, on dansait partout, etc. Mais les moralistes qui écrivent dès cette période, mais aussi dans les décennies qui vont suivre, nous font comprendre qu'il y a vraiment une bonne et une mauvaise danse. La bonne danse, c'est la danse dite basse danse, c'est-à-dire qu'on danse en couple, en suite, d'une manière très ritualisée, avec des mouvements qui sont toujours les mêmes. La mauvaise danse, c'est plus la danse qu'on va retrouver dans les gravures qui représentent des paysans dansants, c'est donc une gravure de dérision. C'est une danse désaccordée, non codifiée, dans laquelle les jambes montent haut, dans laquelle on se permet des sauts, par exemple, hein, ce qui est interdit sinon, enfin mal vu. Voilà. Il y a la danse bien vue, il y a la danse mal vue, et vraisemblablement, c'est lié aussi au comportement en fait pendant la danse. Hein. Elle amène parfois à mélanger des corps sociaux différents. Les femmes sont très présentes pendant la danse aussi, hein, et peut-être qu'on ne maîtrise pas complètement ce qui est maîtrisable dans d'autres périodes, en fait, plus codifiées, justement. Donc voilà, il y a vraiment une danse qui fait peur, qu'on essaye d'éloigner, que dans le domaine religieux, justement, on contredit ou on essaye d'éviter. Hein. Et il semble bien qu'il y ait eu une tension parfois assez forte justement entre la volonté de danser des uns et la volonté d'arrêter de danser des autres et même voir l'interdiction des danses puisque c'est quelque chose qui est arrivé justement au cours du XVIe siècle. On a pu interdire la danse dans certaines villes.
Donc on imagine bien que ces danses qui étaient dansées en juillet 1518 étaient peut-être plus du côté de la mauvaise danse que de la bonne danse, en tout cas dans la manière dont les corps pouvaient danser.
Certainement. Ce n'était pas de la danse correcte. C'est pas de la danse que l'on souhaite voir se développer en fait dans sa ville, en quelque sorte. Surtout pas pour ces jeunes ou pour ces femmes. Après l'épisode, au fond, à part quelques chroniques, on n'en parle pas. Mais on a l'impression qu'au fond, on n'a pas envie qu'on en parle plus après. Hein. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on ne trouve pas de gravures, on ne trouve pas d'écrits, on ne trouve pas de poèmes, etc., ou très très peu. Il semble bien qu'il y ait une chape de plomb en quelque sorte qui soit retombée sur cet événement. Bon, c'est vrai aussi qu'il se produit en 1518 et qu'assez rapidement les événements religieux et politiques en Alsace vont se compliquer effectivement avec l'arrivée de la réforme.
En 2018, 500 ans plus tard, est-ce qu'on a une réponse? Est-ce qu'on sait ce qui a pu se passer? Pourquoi en tout cas est-ce que ces gens se mettaient à danser? Est-ce qu'on a plus de réponses?
Alors, on a pu interroger, voilà, il y a quelques personnes qui ont travaillé sur ces questions-là, que ce soit des historiens, des sociologues. Et c'est vrai que ce qui a l'air de ressortir, en fait, de leurs écrits, à peu près tous, c'est qu'il s'agirait en quelque sorte d'une dissidence du lien social, c'est-à-dire que des gens qui se mettraient en quelque sorte, à qui cela permettrait, en fait, de s'exprimer en dehors d'un carcan social très strict, pour les uns, alors d'autres vont nous dire au contraire, c'est une manière de manifester un enthousiasme, justement, là encore, en dehors de ce qui est permis, mais là, c'est le côté positif, c'est-à-dire ce n'est pas en fait pour sortir d'une contrainte, mais plutôt pour exprimer avec joie quelque chose, et ce serait en fait l'interdiction qui aurait fait la publicité de l'aventure, en quelque sorte. Clairement, il semble que ce soit par là que des personnes qui n'avaient peut-être guerre d'existence, parce que c'est certainement pas les membres du magistrat ou les patrons des corporations qui dansaient. Ces personnes qui, prises ou pas par des angoisses ou pas, c'est pas certain, mais enfin, qui aient trouvé là un moyen d'exister, de respirer. Les rares petites choses qu'on en sait, au fond, plus que la souffrance, on sent plutôt le soulagement, vraisemblablement. Alors, lequel soulagement ou laquelle joie n'était peut-être pas tolérable, surtout dans son amplification au sein de la ville de Strasbourg, effectivement.
« 1518, la fièvre de danse » est une exposition qui se tient au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg et qui raconte l'épidémie de danse qui se déclara à Strasbourg il y a 500 ans. Une exposition qui est scénographiée par Philippe Poirier qui propose une immersion tout en couleur et en élégance dans la ville de Strasbourg de 1518. Commissariat Cécile Dupeux et c'est à voir jusqu'au 24 février 2019. Pour approfondir le sujet aussi, à noter le très instructif et passionnant catalogue publié par les éditions des musées de Strasbourg. Donc 1518 Strasbourg, la fièvre de la danse, et la diffusion du documentaire de Benoît Fink, Les danseurs fous, sur France 3 Grand Est, le 21 janvier prochain.
Merci, ma chère Céline, pour cette évocation donc de l'exposition de Strasbourg. Et les gens qui ont de la mémoire se souviennent aussi de Pont-Saint-Esprit dans les années 50, où brusquement la population s'était mise à danser, une espèce de chorée frénétique et inarrêtable. Alors on évoquait là l'ergot de sel. Il y a un très gros livre de Stephen Kaplan, l'historien américain du pain, qui a fait un livre colossal chez Fayard sur cette histoire de Pont-Saint-Esprit. Donc maintenant on a un renseignement sur Strasbourg. Monsieur Dionnec, LSD ou pas?
Alors, selon Léo Pérouts, en 1936, c'est bien l'ergot de seigle, il le dit dans le Judas de Léonard, ce qu'on appellera plus tard le LSD, et qui provoquera également un peu plus tard la croisade des enfants, ou plutôt des prêcheurs qui vont emmener les enfants devenus rendus fous par l'ergot de seigle, donc par le proto-LSD.
Enfin, ce qui est certain, c'est que actuellement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé en 1518 parce qu'on n'a pas de documents historiques qui nous permettent de savoir précisément ce qu'il en est. Mais ce qui est intéressant vraiment quand on va voir cette exposition, c'est déjà ce principe d'immersion dans la ville de 1518 et puis de voir à quel point un récit, malgré le peu de preuves qu'on a et le peu de documents qu'on a, après est complètement déformé et transformé au fil des siècles. Donc je vous engage vivement à aller à Strasbourg et à faire un tour au musée de l'œuvre Notre-Dame.
Voilà, le conseil est donné. Bah, des danses frénétiques, des danses de mort, des danses paysannes, on va les retrouver dans notre premier sujet de ce soir, dans Mauvais Genre sur France Culture, 1900, de Bernardo Bertolucci.
Une partie très longue et très importante du film, c'est l'adolescence de ces deux personnages. C'est une adolescence que se passe pendant une longue été, qui est l'été de l'enfance et de l'adolescence. Parce qu'on ne peut pas faire un film sur la Terre si on ne tient pas compte des saisons. Et le film est un peu divisé en saisons. Il y a, comme je disais, l'adolescence, l'été. Puis il y a l'automne-hiver de la maturité et du fascisme. Puis il y a le printemps, qui correspond au 25 avril 1945 et la libération.
Comment expliquer votre optimisme justement en ce qui concerne la survie de cette classe paysanne que l'on considère comme pratiquement très menacée?
C'est tout ce que je croyais avant, c'était d'assister à une agonie, à une décadence. Et c'est pas vrai du tout. Dans cette région, qui est la région la plus rouge d'Italie, la politique, la lutte des classes révolutionnaires a beaucoup aidé les paysans à conserver leur culture, leur tradition. Ça peut paraître étrange, mais tandis que le néocapitalisme, soi-disant démocratique, détruit le passé, la lutte des classes révolutionnaires conserve le passé. Et tout ça, c'est très évident. Ça suffit de regarder le visage d'un de ces paysans qui travaille dans le film.
Bernardo Bertolucci, interviewé par la radio-télévision suisse pendant le tournage de 1900, monsieur Philippe Rouillet.
Alors 1900, on se retrouve face à une sorte de film monstre. Hein. C'est 1976, une journée entière mobilisée au Festival de Cannes pour la projection du film qui fait 5h20.
En deux parties.
Voilà, en deux parties, le festival s'arrête à ce moment-là et le film après cela va être mutilé en Amérique. On aura du mal à le voir. On l'a aujourd'hui dans une version restaurée sublime. Grâce à Wildside et cette espèce de coffret monstrueux qui sort fort à propos pour les fêtes, un coffret avec 6 disques, 3 DVD, 3 Blu-ray.
Qui se déploie sur la table.
Qui se déploie avec à l'intérieur, au cœur du livre, du coffret, un livre de 200 pages avec une étude d'une vingtaine de pages, notamment sur la portée politique du film, et puis abondamment d'illustrations. Alors, le film est une sorte de film monstre qu'on apprécie enfin maintenant grâce à cette restauration de Bologne et au support Blu-ray. Hein. On voit la lumière de Storaro qui est absolument extraordinaire et je pense que après coup on comprend mieux le propos du film qu'à l'époque. C'est-à-dire que quand on se replonge dans la presse de 1976, beaucoup de gens reprochent au film son manque de réalisme en disant ben alors il essaye de nous parler de la paysannerie, mais par exemple son approche du fascisme. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le film se nourrit de son propre réalisme. Alors, peut-être, pour les auditeurs qui sauraient pas du tout de quoi ça parle, en gros, c'est 50 ans de l'histoire de l'Italie, la première moitié du XXe siècle. On commence en 1900. Mais le titre original, c'est Novecento, hein. C'est pas réduire le film. On peut pas réduire le film à 1900. Mais 1900, c'est l'année où naissent dans une immense propriété d'Émilie, un enfant chez les maîtres et un enfant chez les paysans.
Et qui n'est plus tôt que l'autre, d'où l'humiliation du maître.
D'où l'humiliation, et ce sont deux garçons. Et les deux garçons vont grandir dans l'amitié, même si la barrière sociale est là, ils sont sur le même territoire, et il y a des jeux qui intègrent ces relations de pouvoir de manière très subtile, et puis ils vont garder quand même un lien en mûrissant, et petit à petit, au moment où ils vont devenir hommes, ils vont être séparés. Alors, le casting, il faut bien comprendre le casting, c'est-à-dire que pour jouer ces deux hommes, c'est d'un côté Robert De Niro, de l'autre, Gérard Depardieu. Donc, les plus distraits d'entre vous auront bien compris qu'aucun des deux n'est italien. Hein. Donc, déjà, on peut pas soupçonner Bertolucci de vouloir faire œuvre réaliste. C'est-à-dire que d'emblée, il veut un acteur américain pour incarner le fils des maîtres, et il va faire son casting à Hollywood. C'est là qu'il rencontre Robert De Niro. Et de l'autre côté, au départ, il veut un acteur russe pour le paysan. Et il contacte la Mosfilm qui dit attention, à l'époque, c'est la pleine époque de l'Union soviétique, en disant oulala, il faut que la Mosfilm valide le scénario. Bon, il commence à se dire que ça va pas être possible.
Ça va être très dur. Et du coup. Alors, c'est quand même un hymne à l'élan révolutionnaire, oui, paysan. Il y a des drapeaux rouges partout. Ça aurait pu séduire les sévères hiérarques du cinéma soviétique.
Alors,
quand même.
Les grands-pères sont aussi extraordinaires, parce que les grands-pères, c'est quand même Burt Lancaster, qui est donc le maître
italien,
qui semble reprendre le rôle de Salina. Enfin, je veux dire, il y a un pont entre le rôle qu'il tient dans Le Guépard et y compris dans sa mort ici. Et puis face à lui, pour jouer le paysan italien, c'est quand même Sterling Hayden, c'est-à-dire Johnny Guitar. C'est dire, là encore, la manière de tirer.
Et la ville d'or.
Et on a quand même deux femmes au cœur de ce dispositif. C'est une institutrice jouée par Stefania Sandrelli, qui est sublimissime, et de l'autre, une espèce de bourgeoise décadente à la limite de la catin, qui est Dominique Sanda. Cette effervescence du casting vous donne une idée de ce qu'est le film. Et Donald Sutherland, pour jouer le grand maître fasciste,
qui est le régisseur,
et on la coquine en couple, pour que ce soit encore pire, avec Laura Betti, l'incroyable Laura Betti du cinéma italien, qui est la cousine du héros. Hein. Donc, il y a un côté maquignonnage entre les maîtres et Donald Sutherland, qui est un peu donc le régisseur qui est entre les maîtres et les paysans, qui marie la cousine de la famille et qui met avec lui la ligue fasciste pour aider les propriétaires contre le socialisme. Car le film est avant tout une fresque rêvée du socialisme. C'est-à-dire que au moment où il le tourne, Bertolucci est à fond à gauche et il rêve de filmer le plus grand drapeau rouge du monde. Il tourne le film avec l'argent de la Paramount. Et il a cette idée sublime dans la deuxième partie du film que tous les paysans ont caché leur drapeau rouge pendant la guerre, et au moment de la libération, parce qu'en fait le film se situe le jour de la libération, et on peut penser que les 50 ans qui précèdent sont un énorme flashback, chacun ressort son drapeau rouge et va le coudre avec les autres, et ça fait un énorme drapeau rouge. Il suffit de vous dire que quand le patron de la Paramount a vu le film, de 5h20, ce qui n'était pas du
il
tout prévu,
il
a un peu avalé son truc en disant « il y a un peu trop de drapeau rouge à mon goût ». Même si on enlève 1h20 dans le film, il restera encore trop de drapeau rouge dans le film. Il aurait peut-être préféré plus de chemises noires. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que l'héritage du film, plus que les drapeaux rouges, c'est les chemises noires. Si vous n'avez pas vu le film depuis longtemps, vous n'aurez jamais, mais que vous l'avez vu, vous n'avez pas pu oublier les séquences avec Sutherland, la mort du chat et puis la mort de l'enfant.
Jean-Pierre Dionnet.
Non, parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, Bertolucci est quelque part un grand pervers, mais quelqu'un de très intelligent. Parce qu'il a vu tout ce cinéma italien de coproduction où parfois les hasards de d'un Allemand à Hardy Krüger, d'un Stalin à Haydn qui passe par là, d'un Burt Lancaster, d'un... Il a vu que dans ses coproductions, des castings totalement aberrants fonctionnaient. Et que parfois, tout d'un coup, eh bien, Anthony Quinn se révélait au travers de trois bouses. Et puis, après, il devenait le grand Zampano. Donc, je pense que c'est aussi une réflexion sur ce cinéma de coproduction italien, qui est le centre du monde à ce moment-là. À Cinecittà, il ne faut pas oublier que cette ville est la ville qui paye la moitié du cachet des artistes connus internationalement. Il le paye automatiquement, même si le cachet est faramineux. C'est pour ça que tout le monde vient du monde entier tourner en Italie. Ils ne sont pas imposables. Salaire idiot, ni dans leur pays d'origine, ni en Italie. Alors, inutile de vous dire que ça, ça fait partie du plaisir du bis. Mais lui, il n'en fait pas du bis.
Sauf Burt Lancaster ici, qui voilà. Lui accepte de, parce que comme il est trop cher pour la production, même s'il y a de l'argent, accepte de travailler gratuitement, en disant on ne passe pas par mon agent, je veux juste une voiture et un logement.
Oui, non, mais Bertolucci.
Seigneurial.
Bertolucci, il nous a déjà prouvé que conformiste, qui est totalement irréaliste, puisque ce pauvre commissaire de police a une déco qui coûterait des millions à l'époque. Alors, dans le conformiste, on peut se dire, oui, on n'a pas bien compris, est-ce que... Et là, c'est clair, on est dans un cinéma rêvé, on est dans un cinéma mental, et le socialisme même est mental chez Bertolucci.
Il est rêvé. C'est ce qui est bien mis en évidence dans le livre qui accompagne le coffret. Il montre bien que Bertolucci appartient à une génération qui n'est pas celle de la Seconde Guerre mondiale, qui est plutôt celle de son père, des militants et des partisans communistes et autres. Il ne serait pas non plus celle des années 70. Il est entre les deux. Et donc, pour lui, la révolution est une chose rêvée, est une chose projetée comme ça.
Oui, tout à fait. Et c'est très important de voir la copie Blu-ray, parce qu'il est vrai qu'il y a un travail de couleur ahurissant, qui est même plus ahurissant qu'il peut l'être chez Visconti et chez d'autres, parce qu'il y a une vraie liberté de la couleur. Une totale liberté qu'on va avoir dans Le Dernier Empereur, que Bertolucci va continuer à appliquer.
Et qu'on va revoir dans Apocalypse Now, parce que le lien entre les deux films, c'est Storaro. Et Bertolucci est copain de Coppola, il parle de leur projet, et ce qui est très fou pour nous cinéphiles aujourd'hui, c'est que c'est un cinéma d'auteur, en même temps populaire, qui ne se fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'équivalent de ces grands films démesurés qui coûtent un argent fou, qui menacent leur propre production, et qui en même temps sont des visions de cinéastes qui osent, qui se lancent dans des films, ils ne connaissent pas l'issue. Il le dit, Bertolucci, dans le DVD, il y a un formidable making-of d'époque, où on le voit sur le tournage et tout ça, et on comprend qu'il ne sait pas exactement où il va aller. Il faut bien comprendre que c'est 11 mois de tournage. 11 mois de tournage avec des vedettes internationales, des cargaisons de figurants et tout ça, il n'y a pas de numérique. C'est un cinéma comme on n'en fait plus aujourd'hui.
Musique d'Ennio Morricone pour 1900 de Bernardo Bertolucci, somptueusement édité en Blu-ray et DVD par Wildside, notre premier sujet ce soir dans Mauvais Genre, Jean-Pierre Dionne.
Alors, j'allais dire qu'on est vraiment dans les films monstres, parce que je me souviens d'une photo où on le voit parler avec Léon. Léon, il est en train de préparer L'étude une fois à l'Amérique, qui est aussi un film monstre. Et Léon, quand il va faire L'étude une fois à l'Amérique, il y a quelqu'un qui suit de très près l'affaire et qui veut faire son film monstre, et qui fera un petit reportage dans Rolling Stone, si je me souviens bien, c'est William Friedkin, qui va faire bientôt son Sorcereur.
Sorcereur, oui.
On est à un moment précis où vont se bâtir 3 ou 4 films totalement impossibles. Certes, presque tous vont échouer commercialement. Presque tous vont laisser une trace indélébile. Bon, Le chant du cygne, ça sera Chimino. Ok, ça y est, on a fini avec les films monstres, on peut pas tuer artistes
même
associés.
Même si Léon sortira
en attendant
après.
Titanic.
Voilà, oui, voilà. Et après, il y aura un retour du film énorme avec Titanic, mais du film énorme sage. Ce n'est pas
c'est
des
plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil.
C'est un film où il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas de folie.
Et il faut quand même dire un mot du producteur, parce que on a parlé de la coproduction avec la Paramount, mais c'est Alberto Grimaldi qui produit. Et attention, le film, je vous ai dit 76, je regarde quand même ce qu'il y a dans la soute de Grimaldi en 76. C'est que du mauvais genre, parce que c'est Cadavreschi de notre ami Francesco Rosi, c'est le Casanova de Fellini, dont on peut voir des scènes coupées.
Avec Sutherland.
Dont on peut voir, avec Sutherland, dont on peut voir des scènes coupées dans formidable édition de Roma qui sort chez Rimini en ce moment. Et Sutherland va faire le Casanova juste après 1900. Et puis, c'est un film sur lequel j'insiste parce qu'on en a beaucoup parlé à mauvais genre. Mais il faut le rappeler pour le comparer avec 1900. C'est le Salon de Pasolini. Parce que les deux films sont à mettre en parallèle. Ça renvoie à des lieux semblables en Italie, et il y a ce même lyrisme opératique pour aborder la question de l'histoire et le même moment quasiment de l'histoire de l'Italie. On l'a entendu dans l'interview avec Bertolucci tout à l'heure. Sa grande idée, c'est de raconter 50 ans d'histoire à travers les quatre saisons, c'est-à-dire que l'enfance des héros, c'est la fin de l'été, et on rentre dans l'hiver du fascisme avant le printemps de la libération. Et ça donne la dimension extraordinaire, visuelle et foisonnante du
film. Oui, n'oublions pas
Monsieur
Bir
et Monsieur Jean-Pierre.
Monstre, ou un cinéaste monstre qui est Tinto Brass. Oui. Qui venait de faire Salon Kitty.
Qui vient de faire
et
Salon
Kitty. Qui fera
Kitty.
Aussi ce Caligula assez
alors,
étrange.
Salon
et
Kitty, pas, oui. Note de Battle.
Enfin, bon, c'est quand même pas tout à fait la même pointure. Excusez-moi, oh, Christophe.
Oui. Excusez-moi.
Monsieur Jean-Pierre.
Puisqu'on est dans l'opératique, on n'est pas loin du Sicilien de Chimino, où là aussi les drapeaux rouges flottent au vent.
Oui, mais là encore un gros cassage de gueule quand même.
Ah, mais presque tous ces films sont des cassages de
non,
gueule.
Non, mais sauf que 1900 est un film réussi et pas le
oui,
Sicilien.
Le Sicilien
non,
n'est pas un film réussi.
Il faut quand même dire
le
les choses.
Le Sicilien n'est pas un film réussi. Mais le moment où on descend de la montagne, où il y a les drapeaux rouges, comme dans tous les Chimino, il y a trois ou quatre moments magiques, même s'il n'y a que trois ou quatre moments magiques.
Alors, ce qui est intéressant aussi, on a parlé des personnages. Hommage de Bertolucci à ses origines parmesanes. Hommage à Bertolucci à la population paysanne de l'Émilie, qu'il a d'ailleurs convié à participer au film. Avec, il mentionne d'ailleurs à la fin, il remercie les paysans de l'Émilie d'avoir prêté leur histoire, leur figure et leur personnage. Donc, pour ce film, c'est vrai que le film, il gagne là une puissance, une authenticité,
très fort,
notamment
très
dans
fort.
La scène, parce qu'à un moment, quatre vieux paysans sont brûlés. Les vifs dans l'incendie de la maison du peuple, incendie causé par une escouade fasciste, et leur cadavre carbonisé est enterré. Et il y a un magnifique enterrement, et là on voit que les figurants font plus que de la figuration. C'est-à-dire qu'il y a une véritable imprégnation du moment historique par les figurants. Alors il y a cet aspect-là, puis alors, il y a l'aspect de l'espace, puisque ça se joue tout entier ou quasiment dans la maison Berlingueri. Et la maison Berlingueri, c'est une sorte de scène de théâtre ou d'opéra, c'est une sorte de cour gigantesque avec un bâtiment rectangulaire autour où les gens sont à la fois là à la vie et à la mort puisqu'ils sont cadenassés le soir, ils y travaillent dans la journée et c'est véritablement le lieu où ils vont naître, ils vont travailler, ils vont mourir, et mourir soit de mort naturelle, soit être exécutés. Il y a une scène d'exécution sommaire par les fascistes qui est assez extrêmement
dans la boue,
très, très impressionnante. C'est là où ils travaillent, on voit apparaître les machineries industrielles. Donc c'est très étrange, c'est à la fois, il y a des paysages énormes, puisqu'ils donnent toute la place au paysage émilien, et en même temps, c'est très cadré sur le plan du lieu de tournage et du lieu d'expression.
C'est comme l'opposition entre le réalisme et l'opératique.
Totalement.
Et c'est ça qu'il faut comprendre pour comprendre l'essence même du film, qui est quelque chose d'assez unique et particulier dans l'histoire du cinéma.
Et il y a quelques acteurs qui sont poussés à bout par ce côté transalpin, c'est à ce moment-là Sutherland, c'est la période où il va faire en même temps le Casanova.
Oui.
C'est
oui,
la période où il va faire en italique Nicolas Roeg, ne vous retournez pas.
Oui.
Donc c'est une période où Sutherland délire complètement, se délivre de tout et va de plus en plus loin.
Et dans les bonus, il dit bien comment il a adoré jouer ce fasciste bigger than life.
Il a une des scènes les pires de l'histoire du cinéma.
Bah, on va en parler.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
La musique d'Ennio Morricone pour 1900 de Bernardo.
Une de ses plus belles partitions.
Oui, magnifique. Alors là,
une des plus sages, une des plus complexes, une des plus emperlificotées. C'est-à-dire que pour ce film-là, il n'a pas utilisé ses trucs habituels qui sont le thème de ceci qui revient là et tout. Non, il y a une vraie partition opératique qui dit bien qu'il s'agit d'un film différent que ceux qu'il fait d'habitude.
Beaucoup
et
de corps, beaucoup de...
C'est rare de sa part une partition aussi élaborée et aussi évolutive.
On évoquait Donald Sutherland, c'est vrai que c'est un des rôles avec Casanova, Mash, qui ont marqué Clout, qui ont marqué sa carrière, puisqu'il joue donc le rôle d'Attila, qui au départ est un régisseur engagé donc par le Berlingueri pour gérer la maison. Il est l'amant de Regina, qui est la cousine aussi du propriétaire.
Il y a beaucoup d'amants, elle.
Un des amants. Et surtout, il se révèle un opportuniste historique et politique formidable, puisqu'il... il prend le fascisme en marche et il organise la section locale du parti fasciste. Et le personnage, je dirais, ses idéaux politiques sont encore accentués et se servent d'une perversité psychologique et d'un sadisme qui consubstantiel au personnage. D'ailleurs, Sutherland joue beaucoup là-dessus, sur sa dentition, c'est-à-dire le côté fauve et bestial est encore renforcé par ses dents qui semblent des dents comme ça d'animal monstrueux prêt à mordre ou à saisir tout ce qui passe à sa portée. Et il y a notamment cette scène tout à fait hallucinante du viol. On ne voit pas le viol, mais on voit simplement la victime. Et puis après, de l'assassinat de cette victime, du viol de l'enfant.
Oui, qui est un assassinat dans la fête. C'est-à-dire que après
le mariage de Niro,
c'est dans un alors c'est le mariage de Niro avec Dominique Sanda et dans une cabane au fond du jardin, dans une espèce de débauche bis, Donald Sutherland a emmené un petit garçon dans des ébats avec Laura Betty, avec sa femme, et après ces ébats il lui dit tu vas garder le silence, ce sera notre secret, enfin les trucs habituels malheureusement de la pédophilie. Mais au lieu de s'en tenir là, il rentre dans une sorte d'exaltation, va amener l'enfant qui est terrifié dans une espèce de jeu où il joue à l'avion et en fait dans sa folie il le précipite contre le mur,
il lui fracasse le crâne contre le mur.
C'est et faut à ce moment là voir le regard à la fois excité et affolé de Laura Betty. Et ce qui est très intéressant, parce qu'à l'époque, en France, on a beaucoup reproché à cette séquence-là en disant, pour montrer le prurit du fascisme, on n'a pas obligé de montrer quelqu'un qui est violeur, infanticide. Mais si, justement, parce que c'est une vision lyrique du fascisme. C'est-à-dire que à la fois, on voit comment, ce que vous dites, François, le personnage d'Attila est un opportuniste et de sa position de régisseur, il va complètement régimenter le fascisme local. Mais par exemple, aucun paysan n'est fasciste. Alors qu'on sait très bien que dans la réalité, le mouvement n'était pas que le mouvement des maîtres, mais a pris aussi en profondeur auprès des classes ouvrières, paysannes, etc. Mais c'est évidemment pas le propos de Bertolucci qui, lui, est dans son socialisme rêvé. Donc, les paysans sont socialistes, les maîtres sont fascistes ou sont comme les bourgeois que sont Dominique Sanda qui ne veut pas voir et qui dit qu'elle est aveugle.
Le problème de Dominique Sanda, c'est la pur produit des années 20. Elle est cocaïnomane, elle est fastueuse, elle vit dans une espèce de... Elle joue en permanence, mais pas au sens, je dirais, d'une comédienne. Elle joue sa vie, presque. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se fait passer pour une aveugle. Voilà. Elle est dans une espèce de roue libre en permanence. C'est un personnage des années 20.
Elle refuse de voir ce qui se passe, quoi, quand elle joue l'aveugle. Elle veut rester dans les années 20 alors qu'on est dans les années 30.
C'est très intéressant aussi, puisque il y a des attardés historiques dans ce film. film. Il y a je crois que c'est le frère ou le cousin de Dominique Sandow ou de Niro qui joue une espèce de grand bourgeois homosexuel qui fait des photos.
C'est l'oncle de Niro.
Voilà, c'est l'oncle de Niro qui fait des photos de jeunes effets nus. Alors c'est évidemment une citation de Taormina du baron von Gloden. Alors là, on est quasiment dans le symbolisme et la fin de siècle. Il y a Dominique Sandow qui est un pur produit, je le répète, des années 20. Donc, et tous ces gens-là, comment ils vont vivre les années 30? C'est-à-dire ce qu'on appelle le tournant des années 30, bah, ils le vivent sans y rien comprendre, d'une certaine manière.
Bah, c'est ça qui est extraordinaire, et à chaque fois avec la caméra qui se veut lyrique. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que le film commence vraiment le jour de la libération et on est dans cette campagne et avec cette caméra qui est en travelling en quelque sorte permanent. Et la séquence qu'on évoquait tout à l'heure de la mort de l'enfant est extraordinairement mise en scène parce qu'on est en 76 et qu'on peut quand même pas tout montrer frontalement, mais il utilise le montage et le son. Pour nous donner l'impression qu'on a tout vu.
Avec la très belle scène finale où le vieux Depardieu, ou Depardieu devenu vieux, et le vieux De Niro se battent parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette situation qui ne peut pas être dialectisée, qui ne peut pas être, on ne peut pas trouver de solution, c'est-à-dire qu'ils sont amis des frères de lait et frères de sang depuis l'enfance et en même temps ils sont opposés politiquement et socialement. Donc, ils se donnent des coups parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas être amis, ils ne peuvent pas être ennemis. Donc, c'est une situation
invivable. Avec le train, avec les rails du train et de cette histoire en marche permanente. Le train revient régulièrement.
Lorsqu'il était enfant, il jouait à se coucher sous le train.
Et donc, c'est peut-être la seule manière. Ou prendre le train et finalement se coucher.
C'est en se couchant sur les rails qu'on arrive peut-être à trouver un point d'ancrage et de fidélité, comme ça. 1900, donc, de Bernardo Bertolucci, superbe coffret paru chez Whiteside.
Sì, insomma, devi guardare l'orario perché 14 ore sono troppe.
Caro te, le disgrazie sono disgrazie.
Amici, facciamo lo sciopero e bastardo chi si tira indietro!
Intanto che i vostri padroni si renderanno conto di avere a che fare con degli uomini!
Scusi, professore, mi sono dimenticato.
E senza colpa, mi creda. Stiamo sulle scatole, scusi l'espressione. E allora ci perseguita.
Purtroppo per voi altri, i padroni possono andare avanti ancora per degli anni, sai.
Voilà, à la même époque, mais dans une autre région, la plus première grande grève ouvrière italienne du XXe siècle, que justement, bien Mario Monicelli met en scène Christophe Beer dans Ses camarades qui nous reviennent avec une magnifique édition. Cette fois, c'est TF1 Vidéo.
Oui, dans la collection Héritage, avec un Blu-ray et un DVD, un livret également, une interview de Monicelli d'une dizaine de minutes. Et donc là, Les camarades, c'est 1963.
Donc 13 ans avant 1900.
Un film plutôt méconnu de Monicelli qu'on avait oublié, enfin qu'on ne voyait plus, qu'on n'arrivait plus à voir et qui là nous est restitué dans une copie en fait intégrale qui fait 130 minutes, qui a été restaurée une fois de plus par à Bologne. Et en fait, je voudrais d'abord revenir sur Le Pigeon, qui est le film phare de Monicelli, un des films fondateurs de cette comédie italienne d'après-guerre auquel on associe toujours le nom de Monicelli. Les pigeons, c'est en fait des personnes démunies, issues de la classe populaire et ouvrière, qui s'associent en groupe pour un but précis, en l'occurrence un cambriolage. Et donc une entreprise qui finit par les dépasser et qu'ils essaient désespérément de mener à bon port et qui aboutissent à un échec. Et c'est finalement le même principe avec Les camarades, et je ne pense pas dévoiler un secret en disant que ce que Monicelli souhaite montrer à travers cette grande grève de la fin du 19e siècle à Turin, et c'est un mouvement, un groupement d'ouvriers qui s'associent pour améliorer un peu leurs conditions de travail déplorables, et tout cela aboutit a priori, enfin, dans les faits, à un échec, même si ça n'est qu'un début. Vous évoquiez l'image du train dans le film de Bertolucci. Là aussi, le train est une image qui arrive dans le film, d'ailleurs fortuitement. C'est par un train que débarque Marcello Mastroianni, qui joue le rôle d'un professeur en cavale, pourchassé par la justice. Et il débarque un soir dans cette petite ville donc qui est baignée. En fait, il s'agit d'une... on est au début de
1905
1880.
Vers 1800, voilà. Et une usine de textile avec des ouvriers qui sont dans des conditions de travail difficiles, 14 heures par jour et une demi-heure uniquement pour bouffer, dit un des ouvriers du film. Et au début,
nous assistons... Une heure de moins, voilà.
Voilà, au début, nous assistons à un accident de travail, un ouvrier fatigué qui perd sa main, qui est broyé dans une machine. Et sur ces faits, les ouvriers se réunissent pour essayer de mieux améliorer leurs conditions. Et il y a cet intellectuel qui débarque de son train et qui va en fait essayer de les pousser à une conscience de lutte de classe et les conduire à faire une grève beaucoup plus dure qu'ils ne l'imaginaient et qui nécessite des sacrifices. Donc voilà en fait l'histoire des camarades. Et ce qui est fascinant chez Monicelli, c'est qu'il a toujours été un cinéaste de la démystification. En ce sens, il n'a jamais aimé le sentimentalisme, il est contre le misérabilisme aussi, et c'est ça que nous découvrons aujourd'hui dans ce film, une absence de manichéisme également. Il est le cinéaste qui peut-être un des premiers, parce qu'il y a, on a déjà une dizaine d'années de néoréalisme, c'est peut-être un des premiers cinéastes italiens qui filme l'ouvrier italien démystifié. Ce n'est plus le personnage fier, qui une sorte de personnage héroïque. C'est un personnage qui est beaucoup plus complexe, qui peut être même avoir des aspects un peu sordides. Et ça vient aussi du fait que Monicelli est un cinéaste qui est aussi qui aime raconter des histoires de groupe. Il n'y a pas de personnage qui se détache. C'est un cinéma de groupe avec une caméra qui s'attarde parfois sur des seconds plans, des personnages qui, en l'espace d'une séquence ou d'une réplique, ont une existence réelle. Et c'est ça qui je pense, a passionné Monicelli, c'est de montrer un groupe, surtout issu du peuple, extrêmement grouillant, qui peut être gras, débraillé, vulgaire, même par moments raciste. C'est cette vision que le cinéaste a développée dans ses comédies les plus drôles, qui est une vision parfois assez noire, qui n'épargne personne. Et c'est ce qui nous rend le propos extrêmement humaniste et attachant, parce qu'il n'est pas du tout manichéen. Et c'est aussi, il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est sa tendresse vis-à-vis des personnages solitaires. Il y a aussi, dans Les Camarades, la volonté de montrer la difficulté d'affirmer une liberté individuelle face à un groupe. C'est ce personnage fabuleux de l'ouvrier qui vient de Sicile avec sa femme et ses enfants dans l'espoir de gagner un peu plus d'argent dans le nord de l'Italie et qui, vivant dans un taudis pire que les autres camarades ouvriers, ne veut pas faire grève. Et le personnage est très, très étonnant dans son mutisme un peu borné et dans sa volonté de... Et sa liberté individuelle se heurte au groupe. De la même façon qu'Annie Girardot, fille d'ouvrier, refuse le déterminisme social, peut-être pour tomber dans un autre déterminisme, mais elle devient une prostituée plutôt de luxe, enfin qui vit dans une certaine opulence, mais qui est rejetée par son père. Et on a comme ça, dans ce portrait de groupe, qui est aussi riche sur le plan des seconds rôles que des têtes d'affiche, si on peut dire, parce que vraiment tout le monde est au même diapason, on a cette richesse avec des personnages comme ça qui essayent d'incarner une liberté individuelle.
Buonasera. Ma cosa fa così in bella vita, con questo freddo?
È che sono uscito con una certa urgenza.
Accidenti all'urgenza, si prenderà una bronchite. Si siede?
Mi siedo? Sì, grazie. Oh, scusi. Scusi. Prego, un altro per la signora.
No, grazie. Lascia stare.
Sì, questo me lo prendo io. Scusi. Ben gentile. Comunque, meglio una bronchite che la galera. Oh. E senza colpa, mi creda. Stiamo sulle scatole, scusi l'espressione. E allora ci perseguita.
Jean-Pierre.
Oui, ce qui me plaît beaucoup de cette période du cinéma italien, c'est que il y a beaucoup, je me souviens d'un livre qui était paru sur le train dans le cinéma italien. Parce que le train en Italie, à cette époque, est migratoire. C'est un peu comme dans le Far West à la grande époque, c'est-à-dire qu'on le prend justement pour aller d'un bout de l'Italie du sud au nord ou pour retourner dans le sud. La voiture est souvent véhicule de luxe ou alors de petites vacances à la mer, mais le train, ça va jusqu'au train où on se donne des gifles dans nos chers amis. Le train est une espèce d'obsession parce qu'il traverse nos deux films, mais ils traversent toute l'Italie parce que c'est par le train qu'ils arrivent. Ils n'ont pas de voiture. Ils vont peut-être en trouver une, ils n'en ont peut-être jamais. Et le train, à ce moment-là, en Italie, est essentiel. Et on en parle tout le temps quand on voit les publicités d'époque, c'est toujours l'idée de monter dans le Nord. Et ça revient dans tout le cinéma. Il y a un cinéma ferroviaire, comme on dit en Italie, très très fort à cette époque-là.
Il faut vraiment recommander ce film de Monicelli. Il y a la photo de Rotunno qui est vraiment magnifique en noir et blanc. Il y a ses prestations de comédien, Marcello Mastroianni donc qui joue le professeur, mais il y a Blier et il y a Renato Salvatori, il y a Folcolulli.
François Perrier,
oui, Folcolulli extraordinaire hein, qu'on retrouvera dans le Salaire de la peur, qui est ce qui est extraordinaire dans le film, c'est les changements de ton. C'est-à-dire que Monicelli a tenu à une vraie authenticité. C'est-à-dire que son propos là encore est très engagé politiquement. Donc il a trouvé une véritable manufacture industrie textile où il a pu tourner. Il y avait encore des machines d'époque. C'est pas vraiment à Turin. Et il a fait appel à énormément d'ouvriers qui étaient eux-mêmes en grève. Et il s'est arrangé avec leur patron et avec eux pour pouvoir en quelque sorte les dédommager et qui soit quand même en grève, mais figurant dans son film. Hein. Et là encore, les scènes de manifestation sont puissantes parce qu'il y a quelque chose de vrai qui se détache de ces figurants. Et en même temps, on est dans la comédie italienne. Cette comédie qui est très particulière puisqu'elle refuse le happy end et elle accepte même la mort. C'est-à-dire que c'est quand même une comédie qui se termine avec un mort. C'est quand même très très particulier. On pousse très loin l'ironie et c'est exactement ce que disait Christophe, le mélange du collectif et du singulier. Comment on n'arrive à rien si on n'est pas collectif et en même temps le collectif va dans le mur. Et donc la solution c'est de naviguer un peu entre les deux et on est en Italie et il y a quand même un chacun pour soi, c'est-à-dire que chacun prend ses petits arrangements avec la vie pour essayer de se débrouiller et on peut en vouloir à personne parce qu'il s'agit de survie, il s'agit pas de s'enrichir et il y a quelque chose de flamboyant dans ce cri du peuple et là la comédie se retrouve dans une éloge du vrai peuple. C'est superbe, c'est même sublime.
Christophe,
il y a peut-être les personnages du patronat qui font les frais de l'esprit comique de la comédie par Monicelli.
La comédie dell'arte, là.
Oui, oui, il y a notamment le vieil industriel hémiplégique qui est extraordinairement drôle. Mais la séquence où il reçoit ses régisseurs fait écho à l'humiliation que subissent les ouvriers lorsqu'ils vont quémander quelques miettes de mieux social. Il y a aussi dans la mise en scène de Monicelli des séquences qui se font écho comme
bien
ça
sûr.
Qui augmente.
C'est une fresque de 2h10 très très bien écrite.
Et qui augmente la comédie
bien
en
sûr,
fait.
Bien sûr.
Oui, il faut savoir que Turin, qui à ce moment-là une ville très importante industrielle, artistique, etc., va perdre tout de suite après ce film son statut. Il va y avoir moins de trains pour Turin. Il n'y aura jamais d'aéroport direct. Et Turin, qui est une des trois grandes villes d'Italie, va perdre son statut dans les années 60, 70, 80, 90 et n'être plus aujourd'hui qu'une ville touristique. L'industrie de Turin est morte. La ville est pratiquement morte parce qu'il n'y a plus de transport pour aller à Turin.
Voir Turin et mourir. Donc, les camarades de Mario Monicelli et 1900, Bernardo Bertolucci, deux événements vidéographiques, comme on dit, à ne pas rater. On termine ce mauvais genre avec vous, Jean-Pierre Dionnet, et trois recommandations.
Alors, on va aller extrêmement vite. D'abord, si vous voulez avoir un livre qui plaira à votre grand-père, à votre petit-fils, à votre oncle, à votre femme, à votre cousine et à vos enfants, un seul livre. Les métamorphoses du vide de Maurice Henry aux éditions du Cendre. Maurice Henry, c'est qui ? C'est un dessinateur d'humour qui pourrait passer dans le hérisson, mais qui était surréaliste, qui a un dessin très ligne claire.
Un membre du grand jeu également.
Voilà, des yeux ronds, une petite bouche rieuse, un nez en trompette, mais un dessin parfait, car ce dessinateur d'humour était surréaliste. Alors, les métamorphoses du vide paraît juste après-guerre, je crois en 47, aux éditions de Minuit. Un tout petit tirage. Et c'est ce qu'on appelle un livre à trous ou un livre à système. C'est-à-dire que chaque page que vous tournez vous révèle quelque chose par transparence avec la page suivante et la page suivante encore. Mais attention, le livre à système, généralement, on contente de l'ouvrir comme ça. Chez Maurice Henry, la page de gauche qu'on a repliée va vous faire voir la page en dessous et en dessous à son tour. Donc c'est une espèce de vision évolutive infinie où on passe d'une espèce de Méouès à la Man Ray, à une vision squelettique à la Salvador Dali, à une vision d'une intérieur de baleine qui devient un squelette. Bref, c'est un livre d'émerveillement continu. Alors, il est mieux que l'édition originale, ce qui est incroyable, qui était rarissime. Il a été imprimé en Chine, à la main, comme on dit. Il est suivi d'une belle postface de Nelly Feuer-Hall et surtout d'une brève histoire du livre à trous du grand libraire Jacques Dès qui actuellement expose des livres à système à Paris. Alors, c'est un livre, faut en acheter deux ou trois.
Oui, c'était...
Voilà, pour la famille. Mais il faut aller vite, il ne sera jamais réédité. Car il ne vaut que 20 € pour un livre à système, je n'ai jamais vu ça.
Voilà, si vous êtes amateur de Marc-Antoine Mathieu...
Maintenant, si vous détestez Noël, si vous pensez que Noël était galvaudé, détruit par les marchands du Temple, eh bien il y a maintenant une bande dessinée pour vous, c'est le tome 1 de Grant Morrison, le grand scénariste anglais de bande dessinée, et de Dan Mora, un jeune prodige portoricain, c'est Klaus. Klaus, c'est le vrai Santa Claus, c'est le vrai Père Noël. On l'a confisqué aux enfants les jouets de la ville. La ville s'est refermée sur elle-même. Oui, mais Klaus arrive avec son loup. Et Klaus, c'est un drôle de super-héros, en vérité. Hyper musclé, hyper méchant, et qui n'hésite pas à trucider ses ennemis pour ramener l'esprit de Noël. Alors, c'est le premier volume. C'est un petit peu comme si Mad Max décidait de devenir Père Noël. D'ailleurs, Kurt Russell, en ce moment, sur Netflix, pour Noël, fait le Père Noël. Mais c'est pas du tout Snake Plissken. Là, c'est presque Snake Plissken. Klaus, c'est le tome 1. Quand il rentre dans la ville pour qu'on rende les jouets aux enfants, il est forcé de tuer une bonne trentaine de personnes. On attend le tome 2. Comme le roi n'a pas capitulé et qu'il continue à garder les jouets pour ses enfants, à un moment donné, dans les tomes 2, il va tuer tout le monde. Alors, toujours de Noël. Ça, c'était chez Glénat Comics, Klaus. Toujours de Noël. Si vous aimez les héroïnes avec une légère surcharge pondérale, je vous conseille Fès au Pays des Merveilles, qui est l'histoire d'une héroïne assez classique qui va se trouver dans un monde féerique, elle est au Pays des Merveilles, mais où on aime consommer. Et où les enfants lui disent qu'il faut consommer davantage. Alors, il l'habite en lapin de Noël, comme elle est assez forte, c'est très curieux. Mais elle va réussir à défaire le sortilège de Noël et à rendre Noël à lui-même à nouveau. Donc, on est dans la pureté de Noël avec Fès au Pays des Merveilles chez Valiant, Christmas Issue et chez Close, tome 1 de Grant Morrison, qui vient de dire scandale qu'en réalité, Alan Moore était très surfait et que Watchmen était vraiment la pire BD depuis une trentaine d'années, il faut arrêter qu'on nous rabatte les oreilles avec ça. Donc Grant Morrison, par qui le scandale arrive. Et puis enfin, parce que Noël, c'est pas forcément pour rire, il y a un écrivain
prodigieux. On avait compris.
Qui s'appelle Ben Winters, qui a écrit une trilogie qui s'appelle Dernier meurtre avant la fin du monde, qui est de la science-fiction, qui est du polar. En gros, c'est les SS frappe la nuit de Sion Mack, dans un monde impossible de fin du monde. Bon, dans le cas des SS frappent la nuit, c'était le monde du nazisme, un homme va quand même essayer d'amener la justice et régler le problème d'un crime. Là, il a pris 3 tomes pour Dernier meurtre avant la fin du monde. Mais là, il fait encore plus fort avec Underground Airline chez ActuSF. Est-ce que c'est un polar? J'en sais rien. Est-ce que c'est de la SF? C'est les deux. C'est l'histoire d'une Amérique où Lincoln a été tué, où certains États sont esclavagistes, d'autres pas, et où le héros est un noir traître qui veut empêcher les autres noirs d'aller vers la liberté. C'est écrit par un blanc, mais c'est d'une violence incroyable à Chester Himes, autour d'un nègre marron à tous les sens du mot. Ça s'appelle Underground Airline, et la couverture en plus est sublime, ce qui ne fait pas de mal.
De Ben H. Winters chez ActuSF, dont on reparlera puisqu'ils vont bientôt nous offrir la plus grande biographie jamais écrite sur Lovecraft. C'est une autre histoire. Merci messieurs, merci d'avoir été ce soir à Mauvais Genre, merci madame. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Séam Boutata, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Christophe Vire, Jean-Pierre Dionnet et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Brecht Evans et Antoine Guillot. Bonsoir à tous.